Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. 600 pages pour un accord arraché de haute lutte dans la dernière ligne droite. Le feuilleton du Brexit continue de réserver son lot de rebondissements, de surprises. Boris Johnson et les négociateurs européens, après des heures de discussion, se sont finalement mis d'accord sur un texte. Le Premier ministre britannique a évoqué un excellent nouvel accord. Ce sont les mots qu'il a utilisés. Du côté européen, tous les feux sont maintenant au vert. Mais désormais, les regards se tournent vers la Chambre des communes. Quel sort les députés britanniques, après quand même avoir rejeté trois fois le plan de Theresa May, vont-ils réserver à ce deal de la dernière chance? Que propose précisément cet accord? Qui a fait le plus de concessions? Comment l'épineux dossier de l'Irlande a-t-il été traité dans ce texte? Boris Johnson a-t-il finalement réussi son pari? Brexit, à qui profite le deal? C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Jean-Dominique Giuliani, vous êtes président de la Fondation Robert Schuman et de l'Institut libre d'études des relations internationales. Rappelons votre dernier ouvrage, La grande bascule, le 21e siècle européen, publié aux éditions École de guerre. Philippe Turl, vous êtes journaliste britannique, chroniqueur international à France 24. Marie-Claire Considère-Charron, vous êtes professeur honoraire de l'Université de Franche-Comté. Vous êtes spécialiste de la civilisation britannique et irlandaise. Rappelons ce soir votre ouvrage « Irlande, une singulière intégration européenne » aux éditions Economica. Enfin, Anne-Elisabeth Moutet, vous êtes journaliste éditorialiste au journal britannique Le Daily Telegraph. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Vous me rappeliez tout à l'heure qu'on a fait à peu près 33 émissions. 33 C'est dans l'air sur le Brexit et peut-être que c'est lors de cette 33e émission qu'on va finalement parvenir à un accord qui va permettre de débloquer la situation. Ces dernières semaines, Jean-Dominique Giuliani, on se disait « c'est pas possible ». Il y avait eu cette phrase d'Angela Merkel qui avait dit « il est extrêmement improbable qu'il y ait un nouvel accord ». Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il s'est passé, c'est que tout le monde a eu peur de ne pas avoir d'accord et a cru que Boris Johnson allait organiser un non-accord avec les conséquences pour les citoyens, pour l'économie, etc. Donc, ce qui le choquait, c'était une partie de cet accord. Au cas où, vous savez, l'accord a été adopté il y a un an. Il a été rejeté trois fois par le Parlement à cause de ce qu'il propose pour l'Irlande. Cet accord prévoit une période transitoire. Le Royaume-Uni, à partir du 1er novembre, va rester dans l'Union européenne jusqu'à la fin de 2020. Et pendant cette période, on doit négocier la relation future entre le continent. Alors, si on n'arrive pas à négocier, il y a ce qu'on appelait le backstop, c'est-à-dire des dispositions qui évitent que l'Irlande soit coupée en deux avec une frontière. C'est ça qui a été renégocié.
Mais ce que je ne comprends pas, on va revenir et on va prendre le temps, je vous assure, parce qu'il faut rentrer dans le détail, parce qu'on a suffisamment parlé les uns et les autres pour essayer de savoir ce qui bloquait et ce qui ne bloque plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a été à la manœuvre? Pourquoi est-ce que d'un coup, on a découvert un Boris Johnson qui veut négocier? C'est ça qui s'est passé?
Oui, parce que je crois que son propos, c'est d'avoir des élections, on en parlera plus tard, et de gagner les élections contre son opposant, Jeremy Corbyn. Donc, ce qu'il veut, c'est montrer qu'il est plus efficace, meilleur que Theresa May. Et donc, ouais, ils disent, cette affaire irlandaise, c'était une atteinte à la souveraineté, parce que si on n'avait pas d'accord, tout le Royaume-Uni s'engageait à rester dans l'Union européenne. Et dit, ça, c'est pas possible, on a voté pour sortir. Donc, on a renégocié ce protocole qui faisait 20 pages et qui en fait 64, et qui est extrêmement compliqué, que je pourrais résumer en une phrase. Pour l'Irlande du Nord, c'est à la fois être et ne pas être dans l'Union européenne, au cas où on
ne
se met pas d'accord.
Bien joué, Jean-Dominique
Giuliani. Y être, c'est-à-dire que l'essentiel de la réglementation européenne va continuer à s'appliquer, encore une fois, s'il n'y a pas d'accord. Mais en même temps, le Royaume-Uni peut dire... il reste dans l'union douanière britannique et donc je peux négocier des accords avec les États-Unis, le Japon, etc.
On va revenir encore une fois, je le promets, sur l'Irlande et dans le détail. Mais juste, pardon de vous reposer la question, les gens qui nous regardent ont de la mémoire quand même. On a passé des heures à dire on ne peut pas se mettre d'accord, Boris Johnson ne veut pas négocier. On avait des déclarations extrêmement fermes de la France, des Européens pour dire cette fois c'est fini, c'est à prendre ou à laisser. En coulisses, Philippe Turl, qu'est-ce qui s'est passé?
Vous savez quoi? Je vais vous dire ce qui s'est passé. Je pense en grande partie c'est dû à la pugnacité de Boris Johnson. Parce que Boris Johnson, quand il est devenu Premier ministre le 24 juillet, a dit le premier jour de son mandat, nous partirons le 31 octobre. C'est à prendre ou à laisser. Ça. Je préfère mieux être mort dans un fossé que de rester dans l'Union européenne après le 31 octobre. Il n'y aura pas d'extension, c'est ce jour-là ou rien. Et donc, je pense que d'un côté, les gens ont dit, bon, il bluffe, c'est pas possible. Mais on a vu un autre Boris Johnson le jour où il est devenu Premier ministre. C'était plus le bluffeur, le bouffon, le bonhomme qui faisait rire. C'était quelqu'un de plus sinistre, de plus dur. Je pense que ça a quand même fait un peu tilt à Bruxelles. Et ils ont dit, c'est mieux qu'on commence à négocier de nouveau un deal, qu'on dit qu'il n'y a plus rien à négocier. Et du côté de Boris Johnson, on a eu cette nouvelle image d'un personnage qu'on ne connaissait pas. Mais à la fin de la journée, il a fait des concessions. Alors qu'il a dit qu'il n'en faisait pas, il n'en ferait pas, mais il en a fait des concessions. Donc, des deux côtés, on a fait des concessions. Parce qu'il faut dire que si les Britanniques s'en vont sans accord le 31 octobre, il y a un no deal. Ouais. C'est très mauvais pour la Grande-Bretagne. Et là, on disait, mais Boris Johnson, il ne veut pas de deal, il s'en fout. La seule chose qui l'intéresse, c'est lui-même, c'est son avenir, le fait qu'il veut être réélu. Mais il sait très bien que s'il a un deal et le deal passe et on part avec le deal le 31 octobre, il va être réélu d'une façon extrêmement confortable. S'il n'a pas de deal, ce n'est pas nécessairement le cas. Et donc, du côté européen, on sait qu'un no deal, ce sera très mauvais pour l'Union européenne. Donc, ils avaient plutôt intérêt à négocier quelque chose. Ouais. Donc, on a accouché de ce deal ce matin.
Et donc, en fait, tout le monde, dans la dernière ligne droite, a eu peur.
Oui. Je pense que tout le monde a eu peur, mais il y avait quand même une volonté d'arriver à un accord.
Oui, mais vous vous souvenez quand même des déclarations des uns et des autres disant, cette fois, c'est nous aussi, les Européens disaient, c'est à prendre et à laisser, il n'y a plus de négociation possible, c'est le deal, le deal et l'accord de Theresa May sur lequel on doit recommencer à travailler. Tout le monde, on était au bord du précipice, et puis finalement...
Il y a une dernière chose, je pense qu'il y a une grosse fatigue du Brexit, aussi. Et on a envie d'en finir.
Bien sûr. Et puis il y a aussi le fait, il y a cette rencontre avec le Premier ministre irlandais, et il semble qu'à ce moment-là,
entre
tout
qui et qui
s'est décidé, Leo Varadkar, Premier ministre irlandais, le 10 octobre, ils se sont rencontrés à côté de Liverpool.
Et là, avec Boris Johnson.
Avec Boris Johnson, bien sûr. L'échange a été cordial. Je pense que Leo Varadkar, c'est quelqu'un qui s'est bien écouté. Mais déjà, il y avait eu une prise de conscience, je pense, chez Boris Johnson. Et il a su trouver les mots à propos de l'Irlande pour lui montrer que vraiment, il fallait vraiment régler ce problème. Donc, c'est une grande avancée pour l'Irlande, cet accord. C'est une victoire pour l'Irlande, si tout en est-il qu'il soit validé par le Parlement. Parce qu'on a peut-être gagné une manche, mais on n'a pas gagné...
Et on va voir, c'est toujours avec le Brexit plus compliqué que ça. Anne-Elisabeth Moutet, sur cet aspect-là, est-ce qu'on sait qui était la manœuvre aux côtés de Boris Johnson et du côté européen? Parce que tous les pays ne poussaient pas dans le même sens, ça on l'avait compris.
Alors oui, on a parlé de l'unité européenne. En réalité, il y a eu presque 3 ans d'unité totale de négociation européenne derrière Michel Barnier avec une grande discipline. Et puis on a vu des failles ces derniers mois et ces failles. En particulier, ça a été le jusqu'au boutisme de Emmanuel Macron qui a beaucoup déplu. Emmanuel Macron qui a fait campagne sur l'Europe et donc tout le Parlement européen, les Européens pensaient beaucoup de bien à Bruxelles. Il s'est attiré des inimitiés qu'on a vu se concrétiser dans le refus de sa candidate la commissaire Sylvie Goulin, parce que on a eu l'impression qu'il avait d'abord une attitude très française qui considérait « je suis le chef, je décide pour tout » et vous n'avez qu'à faire la même chose, alors que dans les autres pays c'est différent, il y a plus de négociations et plus de compromis. Et puis il y avait cette attitude qui consistait à rejeter les Britanniques et qui n'a pas du tout plu à Angela Merkel, qui pensait que c'était mauvais pour l'industrie britannique et de toute façon qui est à quelqu'un de plus consensuel, qui n'a pas envie de faire des postures de politique intérieure en se démarquant au sein de
l'Union. Il était raccord avec l'opinion française, Emmanuel Macron. Il y avait une forme de lassitude aussi des Français sur le côté qu'on en finisse. Quoi.
Dans une large mesure, je pense tout de même qu'on ne vote pas sur le Brexit en France. En Angleterre, on vote sur le Brexit, mais les gens vont donner toutes sortes de raisons pour lesquelles ils vont voter pour une des élections, et le Brexit, ça sera la 50e. Donc il avait relativement les coudées franches. Il a d'ailleurs la tradition des présidents de la République française, c'est qu'ils ont un domaine réservé qui est l'étranger. Je ne sais pas si c'est l'Europe qui fait partie de l'étranger, mais ce n'est pas ce qui mène l'opinion. Et je pense que là, il a surestimé ses capacités. Le résultat, c'est que les Britanniques se sont parfaitement rendus compte de ça et ils ont aussi joué avec ça en disant « Écoutez, on est des gens tout de même plus raisonnables, on ne voit pas pourquoi on se fait tellement rejeter, ce n'est pas la peine d'utiliser des expressions désagréables. » Et je pense que ça a joué. Deuxièmement, c'est vrai qu'on a rajouté essentiellement une tête à un boulot qui avait été fait par l'équipe de Theresa May pendant presque 3 ans, et que beaucoup de cet accord, 90% de cet accord, c'est essentiellement ce qu'avait fait Theresa May avec quelques changements.
On va le voir.
Et la dernière chose, vous avez demandé qui était à la manœuvre. Oui. La personne qui était à la manœuvre avec Boris Johnson, c'est son conseiller Dominic Cummings, qui est un conseiller politique, qui n'est ni élu ni un ministre, qui est un stratège et un jusqu'au boutiste. Et alors que Boris Johnson, les Européens savent qui c'est en réalité, c'est pas un extrémiste, contrairement à l'image qu'on pouvait en avoir, il y avait ce type complètement décidé qui était parfaitement capable de faire exploser la baraque. Et ils se sont dit, Boris Johnson, avec sa capacité à se faire entendre du peuple, et Dominic Cummings, avec son machiavélisme, et puis son côté jusqu'au boutisme, c'est un duo qui nous fait peur. Ils sont capables de casser tout et de sortir sans deal.
Alors, le contenu de l'accord, nous en avons un. We have one. C'est avec ces mots diffusés sur Twitter que Jean-Claude Juncker a annoncé l'accord. Après des heures de négociation, des nuits de tractation, les deux parties sont parvenues à se mettre d'accord sur un texte jugé équitable et équilibré par le président de la Commission européenne. Excellent, selon Boris Johnson, mais il reste 2 étapes néanmoins, la ratification par les 27 et surtout le passage au Parlement britannique. Mathieu Lignot et Nicolas Baudry-Dasson.
C'est une éclaircie dans la tempête Brexit. Après 5 jours et 2 nuits de négociations, un nouvel accord est trouvé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, semble soulagé.
Vous êtes content aujourd'hui ? Vous êtes content avec l'accord ?
Vous pouvez être content. J'ai eu le Premier ministre Johnson au téléphone, c'était ce matin, et nous avons conclu l'accord. Bien joué.
Arrivé à Bruxelles, le Premier ministre britannique Boris Johnson donne une conférence de presse commune avec Juncker. Ambiance détendue,
Jean-Claude, the boss here.
À tel point que Johnson en défendrait presque l'Europe.
C'est maintenant le moment pour nous de faire ce Brexit. Et de travailler ensemble pour construire notre future collaboration. Je pense que ça peut être incroyablement positif pour la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Je veux vous rappeler ce que je dis toujours. Nous sommes le pays européen par excellence, un ami, un voisin, et un partisan européen essentiel.
Le pays européen par excellence s'apprête donc à quitter l'Union européenne à la fin du mois, le 31 octobre. À quelques jours du divorce, le président Emmanuel Macron se réjouit lui aussi de cet accord, mais il préfère ne pas crier victoire trop vite.
Maintenant, il convient de passer les prochaines étapes. Et instruit par le passé, il faut rester raisonnablement prudent. Cet accord permet, je crois, de répondre aux préoccupations politiques, techniques qui étaient à la fois les nôtres et celles des Britanniques.
Voici ce que prévoit notamment cet accord. Le respect des engagements financiers entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, la possibilité d'une période de transition jusqu'en décembre 2020 et des règles de douane spécifiques pour l'Irlande du Nord. Pour le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, ce nouveau document n'est pas très éloigné du précédent. Il clarifie certains points.
Il n'y a pas réellement de surprise. Beaucoup de ce texte final se retrouve dans l'accord que nous avions proposé il y a maintenant presque 1 an. Il y a quelques éléments nouveaux, en particulier sur le sujet qui vous intéresse le plus, qui est celui de l'Irlande et de l'Irlande du Nord.
Le point d'achoppement principal, c'est donc bien la situation de l'Irlande du Nord. Pas de backstop, ce filet de sécurité imaginé par Bruxelles, pas de frontières physiques non plus entre Irlande européenne et Irlande du Nord britannique. Mais des accords douaniers particuliers avec l'Union européenne. Des accords qui s'adaptent à différents cas de figure, censés satisfaire toutes les parties. Hors de question pour les alliés conservateurs et nord-irlandais de Boris Johnson. Les 10 députés du DUP ne voteront pas l'accord.
Le DUP ne sera pas en mesure d'appuyer ses propositions au Parlement. Nous sommes d'avis que ces arrangements ne seraient pas dans l'intérêt à long terme de l'Irlande du Nord.
Lui veut un nouveau vote des Britanniques sur le Brexit. Le travailliste Jeremy Corbyn rejette aussi cet accord.
En l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas soutenir cet accord et nous nous y opposerons au Parlement samedi.
Verdict dans 2 jours. Séance parlementaire exceptionnelle. la Chambre des communes doit débattre de l'accord et le valider. Problème, Boris Johnson a perdu sa majorité et n'a gagné aucun vote depuis son arrivée au poste de Premier ministre. En cas de rejet de l'accord, le spectre d'un no deal pourrait faire son retour dans le ciel du Brexit.
Alors nous allons revenir sur la situation politique en Grande-Bretagne et ce rendez-vous qui est pris pour samedi. Mais d'abord cette question sur le contenu de l'accord. Cet accord, est-ce la victoire de Boris Johnson ou celle de l'Europe? À qui profite le deal?
Mais je crois que tout le monde en profite, en réalité, parce que Michel Barnier avait proposé il y a un an quelque chose d'un peu près équivalent. Il a fait encore quelques concessions, mais Boris Johnson a fait d'énormes concessions.
Alors, c'est lui qui lâche le plus, selon vous?
Pour moi, c'est équivalent. D'accord. Parce que les objectifs ne sont pas les mêmes. Les Européens veulent protéger l'Irlande pour pas qu'il y ait une frontière et protéger leur marché unique. Ils obtiennent à peu près satisfaction, tout en faisant confiance aux Britanniques pour l'appliquer. C'est ça la nouveauté. C'est les douanes britanniques qui vont l'appliquer. Et de l'autre côté, Boris Johnson avait besoin de cet accord pour éviter d'avoir à demander un report. Donc tout le monde est gagnant, en réalité. Et les Irlandais n'ont pas de frontières. Il faudra surveiller tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est le même accord que Theresa May, 600 pages, vous le rappeliez, mais il y a un protocole sur l'Irlande qui est différent.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport au fameux backstop dont on a été si souvent parlé ici?
Si on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur les relations futures, il était convenu que tout le Royaume-Uni restait dans l'union douanière. Là, il en sort, et l'Irlande du Nord en sort aussi, mais en fait, elle n'en sort pas. Ah. L'Irlande du Nord n'en sort pas. C'est ça, la réalité. Bon, et donc, on repousse un peu le sujet aux négociations futures. Et ce qui est très intéressant et que les observateurs n'ont pas encore remarqué, c'est qu'il y a une deuxième chose qui change, c'est la déclaration politique que l'Union européenne et le Royaume-Uni, Boris Johnson, viennent de signer sur les relations futures. Et jamais, même sous Theresa May, on n'avait pu écrire des relations aussi proches que ce qui est dans ce texte. Et donc, Boris Johnson, comme on l'a vu là, se révèle un Européen.
Alors il le dit, ouais. Nous sommes le pays européen par excellence. Veut, alors on veut, tombe de l'armoire quand même.
Il veut rester dans l'Agence européenne de défense, il veut continuer à faire en sorte que ses universités reçoivent de l'argent, que c'est, il veut un accord aérien. Donc ça, c'est nouveau. Et on a vu certains de ses partisans expliquer ça en interne sur le plan politique en disant « faites-lui confiance, c'est le Brexiteur par excellence, laissez-le négocier ». Et il négocie quelque chose de, finalement, un accord à la norvégienne. C'est ça l'idée qu'il y a dans la déclaration norvégienne plus, puisqu'ils ne veulent pas de droits de douane avec l'Union européenne, ils veulent appliquer la réglementation européenne, ils s'engagent à ne pas faire de dumping social ou fiscal aux frontières de l'Europe. Donc ça va très très loin.
Ça veut dire qu'il a obtenu le beurre et l'argent du beurre?
Non, ça veut dire qu'il a fait des concessions très européennes, d'ailleurs, à mon avis, de bon sens pour son pays, et que s'il obtient, et que l'Union européenne a tout lieu d'être satisfaite de cela, et si cet accord prospère et est adopté, tout le monde sera content.
Ça veut dire que si cet accord-là est accepté, on sera sur un Brexit soft?
Plutôt, oui, plutôt soft. En effet, moi, j'ai été très surprise, comme M. Giuliani, en lisant le texte, voyant ce contour de nouvelles relations commerciales, finalement très proche, avec la reconnaissance qu'il y a une proximité géographique avec l'Union européenne, une imbrication de l'économie britannique dans l'économie européenne et qu'il faut respecter. Et tous ces aspects qui n'étaient même pas envisagés par Theresa May, qui font que cette relation va devenir plutôt étroite par rapport à ce qu'on avait pu envisager. Parce que l'idée auparavant de Boris Johnson, c'était de créer une économie dérégulée. Donc, pour créer une économie dérégulée, pour pouvoir trouver des accords de libre-échange avec beaucoup de pays qui soient avantageux pour le partenaire et le Royaume-Uni, il fallait avoir une relation plutôt distante avec l'Union européenne. Et là, on découvre sur le papier que c'est le contraire, qu'on voit se dessiner une relation. Alors, bien sûr, c'est sur le papier.
Parce que sur l'Irlande, oui. On a buté tellement d'années, presque, hein, sur l'Irlande. Pourquoi, d'un coup, ça devient possible? On voit cette carte-là, oui. c'est ça le contenu de l'accord.
Ça devient
Aidez-nous
possible.
Aidez-nous à comprendre.
Ça devient possible tout simplement parce que l'Irlande du Nord reste dans l'union douanière avec le Royaume-Uni. Et ça, c'était le point essentiel, le point de blocage essentiel, rejeté, donc, et que, dont on ne voulait absolument pas ce backstop. Et le Parti unioniste démocrate, le Parti nord-irlandais, ainsi que le groupe des ultra-brexiteurs, le groupe ERG, et qui se voyait complètement piégé, ad vitam aeternam, dans cette union douanière dont ils ne pourraient plus sortir. Puisque pour en sortir, il fallait qu'ils puissent proposer autre chose. Mais ils n'avaient rien d'autre à proposer.
Mais il y aura quand même des contrôles douaniers ou il n'y en a plus ? Quand même.
Alors, il y aura des contrôles, mais aux ports et aux aéroports. Mais il n'y aura pas de contrôle en Irlande. Et c'est ça qui est important.
Entre les deux Irlandes.
Entre les deux Irlandes. Et la zone commune de voyage sera respectée. Et les échanges de marchandises, puisqu'il y aura des réglementations communes avec l'alignement partiel de l'Irlande du Nord sur le marché unique. Et tout ça, ça... Alors, cela dit, certains y verront une côte mal taillée. J'ai quelques réserves à propos de ce qui va se passer pour les contrôles aux ports et aux aéroports. Ça va être très complexe, très difficile à mettre en place. Et il va y avoir un tri à faire. Il va falloir tenir compte d'énormément de critères. Et ça pourrait devenir une usine à gaz. J'espère
que non. Ils sont préparés à ça ?
Alors, j'espère qu'ils le sont. Monsieur Giuliani pense qu'ils sont très forts pour faire des contrôles et des choses comme ça. Ils sont bien organisés.
Vous avez des doutes.
J'ai des doutes. Ça risque d'être très, très compliqué à mettre en œuvre. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que dans cet accord, il n'y aura pas de retour de frontières visibles en Irlande.
Est-ce que tout le monde redoute ?
C'est essentiel.
Je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus facile à comprendre. Par exemple, concernant le TVA. Parce que le TVA, c'est un grand problème entre la République irlandaise qui allait rester dans l'Union européenne et la Grande-Bretagne qui allait le quitter, qui pouvait ensuite mettre le TVA au niveau qu'il voulait. Donc ce qu'il voulait l'Union européenne, c'est que si le TVA en Irlande du Nord est plus bas que le TVA dans la République irlandaise, il fallait construire une frontière en dur. Parce qu'évidemment, les gens peuvent aller en Irlande du Nord, acheter une voiture, par exemple, beaucoup moins chère parce qu'ils payent moins de TVA, traverser la frontière et avoir une voiture dans l'Union européenne pour moins cher que le prix qu'ils auraient dû payer chez eux. Et donc, c'était quelque chose qui n'était pas acceptable pour Bruxelles. Alors, dans le nouveau deal qui est signé depuis ce matin, le TVA en Irlande du Nord restera la même qu'en République irlandaise, qui empêche de facto l'idée qu'on peut aller en Grande-Bretagne pour acheter une voiture moins chère, pour contourner le règlement européen, pour ensuite l'exporter à travers l'Irlande du Nord vers la République irlandaise et ailleurs dans l'Union européenne, pour contourner le TVA européen qui est fixé par Bruxelles. Donc avec l'accord d'aujourd'hui, normalement, ce n'est plus possible.
C'est presque une réunification des deux Irlandes.
Oui, c'est un peu ça. C'est ça la concession de Boris Johnson. Il peut le faire parce qu'il est crédible vis-à-vis des Brexiteurs du Parti conservateur. On l'avait dit ici, d'ailleurs.
Il est moins crédible auprès du DUP.
Voilà, il peut le faire parce qu'il est crédible. Alors, évidemment, les protestants protestent, si je puis dire, mais ils sont un peu les dindons de la farce parce qu'en réalité, il y a bien quelque chose qui se passe, qui va vers la réunification de l'Irlande, qu'on le veuille ou non.
Mais il y a deux choses très importantes. La première, c'est que c'était à éviter à tout prix une frontière en dur pour ne pas réveiller les problèmes que les Britanniques ont connus pendant 40 ans entre les loyalistes qui voudraient une chose et les républicains qui voulaient autre chose et qui se battaient entre eux et on ne trouvait pas d'accord avant l'accord de Vendredi Saint et donc qui ne prévoit pas une nouvelle frontière. Donc pour ne pas réveiller ces problèmes, il fallait absolument laisser la frontière ouverte. Donc c'était le gros problème qu'on n'arrivait pas à résoudre. Et donc avec cet accord aujourd'hui, normalement ce problème est résolu. Et il n'y aura pas de problème pour respecter l'accord de Vendredi Saint.
Est-ce que Londres va payer ?
Alors,
parce que Londres doit payer, les Européens le disent.
En réalité, on parle d'une somme de... C'est ça, 40 milliards. De quoi il s'agit ? Il s'agit d'engagements dans des programmes européens qui sont longs, qui sont de long terme, etc., qui ont été pris par la Grande-Bretagne avant le vote du Brexit. Alors, ce qui est pris par la Grande-Bretagne avant le vote du Brexit, l'Europe dit, écoutez, vous étiez naturellement membre de l'Union quand vous avez voté ça, vous êtes encore membre de l'Union, si le fameux la période de transition dure jusqu'à fin 2020, ils sont encore pour un peu plus d'un an membre de l'Union, vous devez ça. Les Anglais disent, écoutez, à partir du moment où on ne bénéficie plus des programmes européens, et voilà pourquoi ils sont mentionnés dans le nouveau protocole de Boris Johnson, on ne voit pas pourquoi on paierait. Évidemment, c'est une négociation de marchand de tapis. Parmi ces programmes, certains commencent plus tard, auquel cas les Anglais vont dire et peut-être obtenir une négociation en disant, écoutez, les trucs qui commencent dans 5 ans, dans 10 ans, il n'y a aucune raison qu'on les paye, on n'est plus là. Mais il était évident dès le départ que si la Grande-Bretagne ne s'engageait pas à payer ces sommes, elle se trouvait en défaut d'une dette souveraine, et par conséquent, les agences de notation du monde disaient que c'est un pays qui est en défaut, c'est la Grèce, on ne leur prête plus un centime. C'est jamais bon d'avoir une notation comme ça. Mais les Anglais ont commencé dès le départ en disant on ne paye rien, parce que c'est comme ça qu'on commence une négociation. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement, les jusqu'au-boutistes britanniques, après le Brexit, et alors que la question telle qu'elle se posait il y a 3 ans, on l'a totalement oubliée au moment du référendum appelé par Cameron, c'était « on s'en va ou on reste ?» Personne ne pensait à nos deals. Tout le monde pensait qu'on allait trouver un deal. Et à mesure que c'est devenu de plus en plus difficile politiquement et de plus âpre et aigre dans le débat, ça s'est déplacé sur « on part sans deal ou on part avec un deal ?» Et l'un des quelques avantages, parce que essentiellement c'est quelque chose qui a stressé tout le monde, qui a changé le débat politique en Grande-Bretagne, qui n'a rien aidé pour la démocratie et pour d'autres choses, pour la pratique de la démocratie, c'était le fait que ça a fait croire à cette espèce de politique jusqu'au boutiste, les Européens qui vivent dans un monde relativement feutré, chaque fois que quelqu'un vient avec une contestation, on lui explique en 27 pages avec plein d'alinéas pourquoi il a tort, et brusquement ils se sont trouver en face de positions politiques imprévisibles. Donc l'idée qui consistait à dire non, on ne vous donne pas un centime, on prend tout pour nous et on paye la sécurité sociale britannique avec ça, c'était idiot, un peu mensonger et une bonne position de négociation, tout ça à la fois.
Juste, vous êtes d'accord tous avec Jean-Dominique Giuliani qui disait, au fond, c'est sans doute Boris Johnson qui a le plus lâché dans ce nouveau deal.
Oui et non, parce que les Européens ont fait quelque chose qu'ils s'étaient jurés de ne pas faire. Ouais. Ils ont rouvert l'accord.
Voilà,
ils avaient dit qu'ils ne le renégocieraient pas. Ils ont rouvert cet accord. Et puis, l'idée, bien sûr, de Michel Barnier, ça aurait été, enfin, à mon avis, la meilleure des solutions, de créer un backstop irlandais, c'est-à-dire de laisser l'Irlande du Nord dans l'union douanière européenne. Ça aurait été infiniment plus facile que ce système qui certainement sera perçu comme une côte mal taillée par beaucoup d'adversaires de Boris Johnson, et puis un compromis un petit peu bancal. Mmh. Parce que tout ça, c'est l'application. Comment ça va se faire? Voilà.
Moi, je ne suis pas d'accord sur ça. Pas souvent, pas d'accord. Mais l'idée qui consistait à dire nous détricotons le Royaume-Uni juste parce que c'est bien, c'est pour le système bien au cordeau de l'Europe, qui est un endroit de régulation et de théorie, mais qui n'est pas nécessairement un endroit de pleine pratique humaine, et ben, c'est exactement pour ça que les sincères du Brexit sont partis. Pourquoi est-ce que les Anglais ont voté pour le Brexit? Ils n'ont pas uniquement voté pour des trucs de démagogie, ils ont voté pour des questions de souveraineté, de sentiment, de perte de souveraineté et de perte d'identité nationale, de perte de contrôle de ce qu'il faisait. Et il disait quelque chose du style, quand vous êtes quand le général Franco meurt et que 10 ans plus tard, vous rentrez en Europe, vous avez besoin de l'aide de l'Europe pour devenir une démocratie. Même chose avec le Portugal de Salazar. Nous, on a la Magna Carta depuis 800 ans, on a une démocratie parlementaire. On n'a pas à avoir des leçons de démocratie d'un bloc qui a déjà fait revoter plusieurs fois des gens pour une constitution quand ils avaient refusé, par exemple.
Est-ce que le no deal est écarté?
Non.
Non, il n'est toujours pas écarté. Non, parce qu'il ne faut pas exclure que le Parlement britannique ne ratifie pas.
Eh bien, ça, on va en parler. Les 27, ils vont forcément être au cordon. On a un Conseil européen.
Oui, parce que j'ai une petite nuance. Je pense qu'ils sont de bonne volonté. Je pense qu'ils veulent plutôt arranger les choses. Ils n'ont pas intérêt à jouer un gouvernement stable, y compris Boris Johnson. Ils préfèrent plutôt que le bazar qu'on a vu à la Chambre des communes, qui est quand même très glorieux.
Et la plupart préfèrent ça à Jeremy Corbyn aussi, parce que le Financial Times a publié il y a 2 semaines, pendant toute une semaine, le programme économique de Jeremy Corbyn, et Mitterrand en 1980, à côté, c'est rien. C'est des nationalisations, des expropriations,
un impôt sur la fortune de 20%. Ça effrayait aussi les Européens.
Et ça fait très peur aux Européens.
Boris Johnson a gagné la première manche. Donc, parce que, rappelez-vous, il y a 48 heures ou 24 heures, il y avait de fortes chances qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de deal. Ouais. Parce que déjà, il aurait dû avoir un deal il y a 2 jours à minuit, rien. toute la journée hier, rien. Donc aujourd'hui, on disait, bon, ben, on est là avec le sommet européen ou le deal qu'on n'a pas doit être discuté par les chefs d'État. Et bingo, aujourd'hui, on a le deal. Donc, si on n'avait pas eu ce deal, on serait directement sur le chemin d'un no deal. Donc, on y est. Il a gagné la première manche, donc victoire pour Boris Johnson. Mais la deuxième manche,
et on va parler de la deuxième manche,
c'est beaucoup plus dur pour
lui. Et c'est là que les choses se compliquent, et en effet, pour Boris Johnson. On l'a dit à terre le mois dernier, quand il avait été recadré par la Cour suprême britannique. On l'a dit affaibli lorsqu'une partie de son camp, dont son frère, avait fini par le lâcher. Boris Johnson, qui a joué le rapport de force depuis son arrivée aux responsabilités, est-il en train de gagner son pari? Comment le turbulent Premier ministre est passé de la politique de la terre brûlée au consensus européen? Juliette Perrault et Ilana Azincote.
Juillet 2019, Boris Johnson prend possession dans une ambiance électrique du 10 Downing Street. Et à peine arrivé, le voilà déjà qui martèle son message. Le Royaume-Uni sortira victorieux du Brexit.
À tous ceux qui continuent de prophétiser un désastre, je dis oui, il y aura des difficultés. Mais je pense qu'avec notre énergie et notre motivation, ce sera bien moins sérieux que certains l'ont proclamé.
Un Premier ministre à l'offensive qui enchaîne les rendez-vous diplomatiques et pose ses conditions pour un nouvel accord. Avec une ligne rouge, le backstop, ce filet de sécurité contenu dans le précédent texte négocié par Theresa May.
Le backstop, cet arrangement particulier serait un énorme échec pour un pays démocratique comme le Royaume-Uni. Il doit complètement disparaître.
Jour après jour, partout où il passe, le Premier ministre le répète à tous les micros, la sortie de l'Union européenne se fera coûte que coûte, même en cas de no deal.
Nous serons prêts le 31 octobre avec ou sans accord. Nous partirons quoi qu'il arrive, même sans accord, nous partirons.
Et n'allez pas lui parler d'un éventuel report du Brexit.
Je préférerais être mort au fond d'un fossé.
Mais le combat s'annonce difficile. Début septembre, en pleine session parlementaire, Boris Johnson perd sa majorité et sous ses yeux, pas son sang-froid.
Je souhaite tout le meilleur à mon ami.
Le lendemain, les députés votent une motion leur permettant de bloquer un Brexit sans accord. Parmi eux, 21 conservateurs, exclus du parti dans la foulée. Le Premier ministre, sous tension, tient bon. Il propose des élections anticipées, mais essuie un rejet.
La motion n'a pas obtenu la majorité requise.
Un bras de fer marqué par un coup de poker. La suspension du Parlement pour plusieurs semaines. Encore un échec. La manœuvre est déclarée illégale par la Cour suprême. Mais rien ne semble arrêter le bulldozer Johnson. Pas même ces Britanniques qui descendent par centaines dans la rue pour dénoncer un coup d'État.
Nous sommes là pour nous battre pour notre démocratie, peu importe que l'on soit pro ou anti-Brexit.
Je pense que c'est incroyablement irrespectueux ce que fait Boris Johnson. Ce gouvernement pense qu'il peut faire passer ce genre de pratique pour quelque chose de normal.
Un Premier ministre englué dans la crise, mal aimé sous le feu des critiques, mais qui pendant ce temps continue à négocier et finit par présenter ce qu'il appelle son offre finale aux Européens.
Nous protégerons notre précieuse union entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Et oui, il y a un compromis de la part du Royaume-Uni. Et j'espère vraiment que nos amis comprennent cela et fassent un compromis de leur côté.
Compromis ? Drôle de mot dans la bouche de Boris Johnson qui a su user de son image de jusqu'au boutiste. Un négociateur intransigeant qui, à quelques jours du 31 octobre, a peut-être trouvé un début de solution à la crise. Peut-être.
Peut-être, cette question, Boris Johnson peut-il réussir là où Theresa May a échoué, Philippe Turl?
Alors, jusqu'à maintenant, il est à part égale avec Theresa May parce qu'elle a réussi à négocier un deal avec l'Union européenne. Rappelez-vous, il y a un an tout juste, Elle est revenue, le deal a été rejeté une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et finalement, Theresa May est partie. Donc Boris Johnson est parti à Bruxelles à négocier un deal, et maintenant il revient, et samedi, on verra bien si son deal est accepté ou pas. Ce n'est pas évident, parce que le nombre de sièges nécessaires n'y est pas.
Qu'est-ce qui lui manque ?
Je pense qu'on bute, on va buter sur l'arithmétique parlementaire. Et beaucoup de motions, beaucoup de projets ont buté sur cette arithmétique. C'est redoutable.
Il n'y a pas de majorité.
C'est-à-dire qu'il faut, faire le compte des voix. Et ben on n'y arrive pas. Enfin, si on regarde très près, alors bien sûr, Boris Johnson compte sur le bon sens, il a dit le pragmatisme. Et peut-être, pour certains députés, ça peut jouer. Parce qu'après, si ça ne passe pas, on va déboucher sur vraiment une terre inconnue, là. Que va-t-il arriver ? Donc, en plus, bon, lui, il a tout intérêt, parce que déjà, il commençait à s'installer un peu dans cette image de loser, Boris Johnson. Il avait perdu bataille après bataille. Donc, il veut sortir le Royaume-Uni le 31 octobre. Il veut montrer qu'il est capable de le faire là où Theresa May a échoué. Mais alors, il y a certainement énormément de tractations en cours.
Sur qui il peut compter ? Parce que c'est vrai qu'on a vu les réactions cet après-midi. Oui. La réaction, alors évidemment, ce n'est pas surprenant, mais Nigel Farage qui dit ça n'est pas, cet accord n'est pas un accord de Brexit. Oui. Les unionistes dont il va avoir très besoin ont dit pour nous, c'est non. Oui. Il lui reste, il y avait ses anciens camarades, les 21 conservateurs qui sont partis. Oui. Il est en situation plus confortable que l'était Theresa May ?
Oui, bien sûr.
Pourquoi ?
Alors, d'abord, parce que comme ils sont toujours en train de jouer un billard à plusieurs coups et que l'objectif, ce sont des élections législatives, il faut absolument qu'ils tuent le parti de Farage. Parce que ce qui peut faire perdre des voix dans des sièges contestés aux conservateurs, c'est évidemment les gens du Brexit Party. Donc, ce n'est pas plus mal que Farage l'insulte, ça lui rend service. Ensuite, la question, c'est le Parlement est détaché, en réalité, de la façon dont la nation a voté. Le Parlement, il est anti-Brexit. À gauche comme à droite, les conservateurs comme les travaillistes. Et ça ne représente pas l'électorat et même les appareils des partis. Alors, est-ce que les 21 députés qui sont partis...
Ils vont revenir ?
Certains. À mon avis, certains, probablement pas tous, mais certains vont revenir en se disant qu'il faut tout de même qu'on arrive à un accord et ce n'est pas inacceptable. Ensuite, qui au sein des travaillistes, qui sont les députés relativement libéraux au sein du Parti travailliste, faisant face à un leadership jusque-boutiste qui se disent « il vaut mieux voter pour ça », qui de toute façon sont contre le Brexit et encore plus contre un Brexit dur, à mon avis, on va en trouver. Ce sont des gens qui vont perdre non pas leur siège aux élections qui vont venir, mais qui ne vont même pas avoir le droit de se présenter parce qu'ils vont être purgés par leur leadership. Mais de toute façon, c'était déjà inscrit. Donc c'est peut-être là qu'il va trouver du monde. Les Irlandais, ils ne vont pas changer d'avis. Et les libéraux-démocrates, certains vont peut-être voter avec Boris Johnson.
Je n'ose même pas vous poser la question parce qu'on l'a posée tellement de fois. Mais est-ce que c'est vraiment le vote de la dernière chance ? Parlement britannique.
Non, parce que si l'accord
est rejeté.
Oui, à ce moment-là, il y a une loi qui s'applique, il est obligé de demander un report.
Il ne veut pas, il a dit qu'il préférait mourir
Il a dit aussi devant les juridictions qu'il appliquerait la loi et qu'il demanderait un report. Ce qu'il peut faire, c'est demander un report et démissionner, par exemple, ou faire quelque chose comme ça. À ce moment-là, on irait peut-être, pourquoi pas, vers des élections plus rapides. N'est-ce pas ? Mais il y aurait un report. Et d'ailleurs, dans la déclaration qui a été signée à Bruxelles, non seulement il y a une période de transition qui est prévue, parce que là, le backstop, etc., c'est au cas où on ne se mette pas d'accord sur des relations futures. Il y a une période de transition jusqu'à la fin 2020. Et curieusement, elle peut être prolongée de 2 ans.
Donc, quoi pendant cette période de transition ?
On négocie des relations futures que Boris Johnson veut bien plus étroite, et se permet de dire bien plus étroite avec l'Union européenne. L'Union européenne y a intérêt. Et en fait, comme je vous m'étais permis de vous le dire une fois, le Royaume-Uni, il a un pied dedans, un pied dehors, et il veut l'inverse. Il veut un pied dehors, un pied dedans. Voilà. Donc c'est ça qu'il veut, et c'est l'intérêt de tout le monde. Donc c'est pour ça que personne ne perd vraiment. Vous voyez ce que je veux dire ? Même les Européens, demandez aux agriculteurs bretons s'ils ont intérêt à un Brexit dur.
Ce que je voulais savoir, c'est si on est sorti du psychodrame, vous venez de répondre non.
Non.
Non, on n'est pas sorti. Alors, je vais donner quelques chiffres, si vous voulez. Il y a 650 députés britanniques. Oui. Il y en a 639 qui peuvent voter. Donc, il faut une majorité de 320 dans le Parti conservateur, il y en a 287 qui vont probablement voter favorablement à ce deal. Donc la grande question, comme disait Anne-Elisabeth, c'est que, qu'est-ce qui va faire les 21 députés conservateurs qui ont été déboutés du parti parce qu'ils ont voté contre Boris Johnson. Là, il y a une grande question. Donc on dit 14, 15 peut-être voteraient favorablement au deal. Dans les travaillistes, il y a 4 ou 5 qui voteraient favorablement, 17, 18 qui sont plutôt pour un deal, qui sont fatigués de cette situation qui ne se termine jamais, qui sont peut-être susceptibles de voter pour le deal, même s'ils ne sont pas vraiment favorables à Boris Johnson. Dans les autres partis, les libéraux-démocrates, la SNP, les Écossais, rien du tout, personne ne va voter. Donc, puisque les DUP, le parti néo-irlandais, pour le moment et probablement voterait contre, ça va être extrêmement difficile pour Boris Johnson de faire passer son deal samedi. C'est quelque chose qui... Pour les téléspectateurs, est probablement très difficile à saisir parce qu'on dit, bon, on a quand même un deal
même.
Que l'Union européenne a négocié avec les
et
Britanniques.
Vient d'adopter,
pourquoi
petite
les Britanniques n'en veulent pas ?
Philippe Toll, petite parenthèse, pardonnez-moi, je vous ai interrompu, mais c'est important puisqu'on en parlait depuis le début de l'émission. Les 27 ont adopté le deal. Alors, ce n'est pas une grande surprise, hein, évidemment. Eux, ils ont intérêt à ce que les choses se passent favorablement. Et désormais, effectivement, tous les regards sont tournés vers le Parlement
maintenant,
britannique.
Donc, la grande question, c'est qu'est-ce qui va se passer samedi ? Donc, il y a plusieurs hypothèses. D'abord, un, Boris Johnson va à la Chambre des communes et le deal est ratifié. Nous partons de l'Union européenne le 31 octobre, tout va très bien. Deuxième hypothèse, le deal est rejeté. Boris Johnson est obligé de faire un deuxième vote pour demander aux députés s'ils sont d'accord pour partir de l'Union européenne sans deal. Ça va évidemment être rejeté. Ouais. Ensuite, il est obligé de retourner à Bruxelles pour demander ce fameux rapport jusqu'au 31 janvier. Il a dit « je ne le ferai jamais ». Donc, beaucoup de journalistes, beaucoup de députés se posent la question comment il peut faire pour contourner cette législation. Eh bien, on dit qu'il va écrire la lettre qu'il est obligé d'écrire parce qu'il y a une loi qui a été votée qui le force à le faire. Et il enverra une deuxième lettre tout de suite après pour dire « Vous ignorez ma première lettre parce que dans la deuxième lettre, je demande que vous ne me donnez pas d'extension.
» Et après, il se passe quoi ?
C'est
pas,
un peu tordu.
Mais il est tordu, donc il pourrait faire quelque chose de cette manière.
Après, il y a des élections.
Après, s'il refuse de demander une extension, il dit bah, « Finalement, je ne le ferai pas, je m'en fous de la loi, je reste là. » Il sera en défaut de la loi britannique, donc il pourrait éventuellement être arrêté. Tout ça, c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé. Dans la constitution britannique qui n'est pas écrite, on n'a jamais vu une telle situation, donc on ne sait pas ce qui va se passer après. Il y a ceux qui disent « Mais Boris Johnson, il refusera de démissionner, il va aller se cacher dans le 10 Downing Street, il ne va pas respecter ce que la reine lui demande de faire. » Donc on est face à plein d'hypothèses. Pour le moment, on n'a pas de réponse. Donc, ce qui est sûr que samedi, ça va être une journée mémorable dans le Parlement britannique.
Mémorable avec une hypothèse que vous n'avez pas évoquée, mais peut-être parce qu'elle ne tient pas la corde, c'est l'idée de faire revoter, cette fois-ci, les Britanniques sur cet accord, de faire un référendum sur cet accord. Est-ce que ça, c'est... ce serait acceptable pour les parlementaires, pour Boris Johnson, pour l'Union européenne ?
Probablement pas. Bon, alors là, je parle vraiment de gut feeling, de sentiments comme ça, parce que je ne l'ai pas étudié. Oui. Mais je pense que y a toute la question de est-ce qu'on devait ou non revoter pour le référendum qui s'est considérablement estompé. Je ne dirais pas qu'elle a disparu, parce que tout ce débat, rien ne disparaît jamais vraiment. Mais juste pour les détails d'un accord technique qui va ensuite amener à une prolongation de 14 mois et faire voter les gens pour ça, ça me paraît, alors qu'il y a déjà eu le vote du référendum, les élections qu'a fait Theresa May où elle a perdu sa majorité, et ensuite les élections européennes qui, à mon avis, étaient une grave erreur de l'Union européenne, d'imposer à la Grande-Bretagne, parce que ça a solidifié des blocs politiques qui n'existaient pas vraiment avec cette force dans le système anglais, encore une élection nationale.
Vous n'y croyez pas ?
Ah, je pense que ce n'est pas tolérable pour
le public
anglais.
Mais ce ne serait peut-être pas acceptable pour les Européens ?
Non, et puis écoutez, je crois qu'ils sont guéris des référendums pour le moment.
Quelles seraient les conditions qui pourraient faire que l'Union européenne accepte ? Parce qu'il y a des gens qui vous regardent là et qui se disent « on ne va pas encore accepter un report ». Qui sont sur la ligne Macron, sur le mode, bon, ben maintenant, ça suffit.
Non, vous savez, le président de la République, tout ça, c'est de la négociation. Donc, on prend des postures, mais enfin, la France a intérêt aussi à ce que les choses se passent bien. Parce que
un report, ce serait que les choses se passent bien.
Je rappelle que, quand même, c'est le Royaume-Uni, c'est notre premier excédent commercial, 12 milliards d'euros. Donc les pêcheurs bretons, les choux-fleurs, les agriculteurs, etc., et regardent ça aussi, c'est leur intérêt et leur vie. Hein. Donc le gouvernement français, il ne va pas jouer avec le feu. Donc il y a la posture, et puis après, on a intérêt, on a tous intérêt à ce que ça se passe bien. Boris Johnson, on a vu pour des raisons de politique intérieure, nous, essentiellement pour des raisons économiques, sociales et diplomatiques. Et ce n'est pas du tout des postures, c'est vraiment
mais
l'intérêt.
Mais un report, ce serait une option.
Bien sûr.
Je termine juste ma question. Considéré comme une bonne option
au
niveau européen.
Mais absolument, elle a longtemps été envisagée. Le président Giscard d'Estaing, la semaine dernière, a dit encore pourquoi pas leur donner un an de plus pour qu'ils se mettent d'accord. Parce que
on va encore faire des émissions sur le Brexit.
Oui, bien sûr. on peut en faire encore 33.
Allez, quelle que soit l'issue, en tout cas, le Brexit aura laissé des fractures profondes dans le pays. Pour preuve, le climat de violence auquel sont confrontés, en particulier les élus, insultes, menaces de mort, menaces de viol. Certains députés ont même fini, vous allez le voir, par sécuriser leur domicile. Nos équipes sont allées à la rencontre de ces élus sous pression. Reportage sur place, Victoria Rouxel, Thomas Buyer.
À la lecture de cet email reçu en mars dernier, la députée Caroline Knox a immédiatement alerté la police.
You fucking bitch, Caroline Knox, I'm going to kill you, fucking bitch. Can't even do any work in the Home Office. I'm going to kill you, you bitch.
Une menace de mort qui n'est pas isolée. Pour la députée conservatrice opposée au Brexit, ces types de messages se sont multipliés au fil de ses prises de position.
Depuis ma décision le mois dernier de demander un report de la date du Brexit, c'est très clair que certains pensent que je suis une traître, que j'ai capitulé face à l'Union européenne, alors que tout ça c'est faux.
Désormais, à son domicile comme dans sa permanence, des caméras et un dispositif de sécurité renforcé.
Donc ça, c'est un bouton de secours que mes collègues peuvent utiliser s'ils sont seuls au bureau et qu'ils ont besoin d'alerter la police en urgence si quelqu'un agit de manière menaçante.
Il y a quelques semaines, Caroline Knox a même été menacée en plein jour devant sa permanence. Alors elle vit à regret, toujours sur ses gardes, pour éviter toute attaque.
J'ai changé mes habitudes, où je me gare, comment je me rends au travail. Par exemple, quand je prends le train pour Londres, je monte à des stations différentes, juste pour être sûre de ne pas tomber dans un emploi du temps type.
Une situation inhabituelle en Grande-Bretagne et qui provoque la stupeur parmi les administrés de la ville de Romsey. Si tous condamnent les violences, certains mentionnent également l'origine de cette colère.
Je pense qu'aucun député ne devrait être la cible de violence. Mais ils devraient écouter leurs administrés et exécuter leur volonté plutôt que de suivre leurs aspirations personnelles.
Le fait que des politiciens soient violentés ou abusés juste parce qu'ils ont un point de vue particulier, c'est complètement scandaleux. Les Anglais ne sont pas comme ça.
C'est sur les réseaux sociaux principalement que le ras-le-bol s'exprime, à l'encontre des parlementaires et du Brexit qui n'en finit pas. Menaces de pendaison, de meurtre, ces journalistes de la BBC se sont infiltrés au sein d'une vingtaine de groupes pro et anti-Brexit sur Facebook pour connaître la teneur des messages et leurs cibles.
Une grande partie des messages vise Jeremy Corbyn et Boris Johnson, les deux chefs de parti qui sont donc des hommes. Mais sur ces forums en ligne, on trouve beaucoup de messages de haine visant les femmes, et notamment les femmes noires, les femmes de couleur.
Une dérive rendue possible par l'anonymat sur les réseaux sociaux.
Les débats autour du Brexit sont devenus beaucoup plus vifs et passionnés au cours des derniers mois et des dernières années. Cette colère a trouvé sa place sur les forums où les gens se rassemblent et discutent de leurs idées. Je pense aussi que le problème avec Internet, c'est que les gens se permettent de dire des choses qu'ils ne diraient pas s'ils n'étaient pas derrière un écran d'ordinateur ou un téléphone.
Dernièrement, certains députés ont accusé le Premier ministre Boris Johnson d'alimenter ce climat de violence.
Beaucoup d'entre nous ici subissent des menaces de mort et sont victimes d'abus chaque jour. Et laissez-moi dire au Premier ministre que nos agresseurs citent ces mots à lui l'acte de capitulation, la tromperie, les traîtres. Je n'en peux plus. Nous devons modérer notre langage, à commencer par le Premier ministre.
Pas si évident de désigner un responsable, assure-t-on du côté des conservateurs.
Il fallait entendre ce qui se disait du côté de l'opposition, qui criait menteur, tricherie et d'autres choses de ce type au sein même du Parlement. Alors que l'essence même de la démocratie parlementaire et de son fonctionnement, c'est d'exclure ce type de propos. Quand on regarde sur les réseaux sociaux, certains veulent mettre la tête de Boris Johnson au bout d'une pique et l'exhiber en ville ou lui couper la tête. Vous savez, lui aussi est victime de cette situation.
Dans ce climat de violence, un souvenir funeste ressurgit. Celui du meurtre d'une députée travailliste, Jo Cox, une semaine avant la tenue du référendum pour le Brexit en 2016.
Et nous étions tous sidérés par ces images de ce reportage. Ça ne vous surprend pas, naturellement, vous qui suivez au quotidien la vie politique britannique, c'est devenu extrêmement brutal.
Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, nous qui faisons souvent les plateaux de télé, nous aussi, parfois, on reçoit des insultes ou par des personnes anonymes sur les réseaux sociaux. Et évidemment, autrefois, avant que ça existe, jamais on recevait ce genre d'insultes. Donc, ça ne m'étonne pas du tout que ces politiques reçoivent la même chose et encore pire. Et quand on voit ce qui se passe dans le Parlement britannique, c'est guère étonnant. On a eu le meurtre, on n'a pas dit dans le reportage, le meurtre d'un député Joe Cox
en
2016 par un fanatique et qu'elle était contre le Brexit. Donc il y a cette peur de la classe politique qu'on va voir une répétition de cette situation. Mais en même temps, la situation est trop belle pour ne pas dire des choses très dures, pour essayer de gagner un point de plus dans l'opinion publique. Et Boris Johnson lui-même a été très critiqué, ce qu'on n'a pas dit aussi. C'est que cette dame qui s'est mise debout, qui a dit qu'on est victime des insultes, on en a marre, etc. La réponse de Boris Johnson, c'est que je n'ai jamais entendu une connerie pareille dans ma vie de politique. Donc, évidemment, quand on entend ce genre de choses, on dit, tiens, la porte est ouverte, on peut dire ce qu'on veut, on a le soutien des politiques, ils disent la même chose dans la Chambre des communes. Donc, nous, ça nous libère la parole sur les réseaux sociaux. Donc, il y a maintenant, depuis une quinzaine de jours, un effort qui est fait dans la Chambre des communes, surtout le speaker, il a rappelé à l'ordre les politiques en disant « ça suffit, maintenant on reste cordial entre nous, parce qu'on nous regarde, et ce qu'on regarde n'est pas joli à regarder. »
C'est l'image du pays, n'est-ce pas? Et toutes les démocraties subissent la même chose, une montée de la violence. Pourquoi? Parce que normalement, en démocratie représentative, on élit des députés pour qu'ils fassent la part des choses entre la volonté populaire et l'intérêt général du pays. Et c'est ça que les réseaux sociaux gomment, en fait. C'est que maintenant, regardez, dans votre reportage, le citoyen dit « il doit faire ce que j'ai dit ». Mais oui, c'est pas l'intérêt du pays.
C'est la différence entre une démocratie et une république. Une démocratie à la tédienne, ça veut dire que vous êtes tout le temps sur l'agora en train de discuter ce qui se passe, et la république, ça consiste à ce que vous donnez la charge de la chose publique à quelqu'un qui est là pour un mandat spécifique.
Cette question, serait-il possible de réconcilier les pros et les anti-Brexit en Angleterre? Et comment ce pays, quel que soit le scénario sur lequel aboutit ce pays peut-il se réunir?
Ça va être très difficile. Je pense qu'il faudra peut-être des décennies, parce que le Brexit est devenu le plus grand diviseur commun. Et ce référendum a creusé un fossé entre deux parties de la nation. Et à tel point que même tous les sujets, finalement, viennent à se greffer sur l'attitude pro ou anti-Brexit. C'est absolument incroyable. Donc, il va falloir... Et puis, les fractures sont multiples. Il y a beaucoup d'explications, on pourrait en disserter pendant longtemps, mais il y a des fractures géographiques, il y a des fractures générationnelles, il y a des fractures socio-économiques, il y a des fractures idéologiques. Parce qu'on est aussi dans l'idéologie, ce qui n'est pas non plus tellement courant au Royaume-Uni où on vante le pragmatisme, le self-control. Alors là, où est le self-control? Donc il y a vraiment c'est un pays qui est à vif là, qui semble ne plus pouvoir se contrôler, et c'est très dommageable parce que c'est tellement contraire à l'image qu'il avait d'une nation apaisée, d'une nation qui avait son flegme, voilà, et puis une grande démocratie aussi.
Boris Johnson, lors de la conférence de presse, a donné le sentiment de s'adresser aux Britanniques et en particulier aux parlementaires, en leur disant, en gros, il va falloir voter ce texte pour qu'on puisse enfin s'attaquer aux problèmes des Britanniques. Et il a parlé notamment du système de santé. Juste cette petite information qu'on a retrouvée en préparant cette émission. Sky News a mis en place une chaîne où on ne parle pas du Brexit. Brexit free. Il y a 30% des Britanniques qui ne s'informent plus du tout pour échapper au Brexit. Est-ce que les Britanniques, on parle au quotidien quand même de leurs problèmes, des questions économiques, des questions d'emploi, des questions de santé?
Il y a deux choses. La première, c'est que cette chaîne a commencé hier à 17h. Ouais. C'est tous les jours entre 17h et 22h, il me semble, parce qu'il y a une fatigue du Brexit et une angoisse à cause du Brexit. Donc il y a une bonne partie, j'ai pas le chiffre en tête, mais une bonne partie de la population britannique qui souffre du Brexit, qui a demandé des visites médicaux, qui est en congé maladie au travail, à cause du stress qui est engendré par le Brexit, surtout sur l'idée qu'on ne sait pas ce qui va se passer. De quoi demain va être fait? Est-ce qu'on va avoir toujours un travail? Est-ce qu'on va avoir toujours un salaire? Qu'est-ce qui va devenir le pays? Est-ce que je vais pouvoir voyager? Toutes ces questions restent sans réponse. Et ça ne termine jamais.
Mais ça ne va pas peser sur le vote de samedi, cette ambiance-là
dans le pays ?
Je
pense que là, par rapport à Theresa May, la différence maintenant, c'est qu'il y a une grosse fatigue de cette situation, de ce Brexit, et c'est pour cette raison que même ceux qui jamais auraient ratifié l'accord de Theresa May sont peut-être prêts à le faire maintenant pour au moins aller à l'étape suivante, pour en finir avec le début de ce processus, parce qu'il faut quand même aller plus loin. Et c'est sur cela que Boris Johnson est en train de jouer. Et il le dit depuis le début. Je veux en finir avec le Brexit. Il faut passer à autre chose. Il faut parler de l'éducation, il faut parler de la sécurité, il faut parler de l'économie. Il faut arrêter de parler de Brexit, parce que les gens sont tellement divisés. Je vous dis une chose. Quand je vais en Angleterre maintenant, on a une réunion le mois dernier avec des amis d'école, que je vois presque jamais. Et avant la réunion, j'ai vu les organisateurs et ils m'ont dit, on ne parle pas de Brexit parce qu'on ne sait pas si celui-là a voté pour partir ou celui-là a voté pour rester. Et on ne veut pas que la conversation se dégénère pour devenir l'Angleterre. C'est devenu
plus,
à ce point-là, un sujet tellement chaud que les gens n'osent plus en parler.
Et voilà pourquoi il y a une chaîne désormais, Brexit Free, où on ne parle pas du Brexit. Nous, on en parle et on continue d'en parler, et vous avez des questions. Des questions cash, comme on dit. Avons-nous encore une fois baissé notre pantalon pour arriver à un accord, quoi qu'il arrive ?
Non, c'est une vision traditionnelle des Français qui considèrent que les Anglais sont les plus forts. Moi, je dis que l'image du Royaume-Uni en a pris un vrai coup dans le monde avec ce qu'on voit, parce que après un vote populaire en 2016, le système politique, le Parlement, n'a pas été capable de répondre à un vote populaire. Et donc, c'est un échec de la démocratie
britannique. Mais sur l'accord, vous disiez plutôt que c'était des concessions du côté britannique.
Des deux côtés. Et finalement, c'est win-win, comme on dit. Tout le monde gagne à sortir de cette situation d'instabilité.
Ce n'est pas la première fois que tout le monde crie victoire. Qu'est-ce qui a vraiment changé ? Il a raison, Grégoire, qui est en Haute-Garonne. Ce n'est pas la première fois qu'on dit « Ah, cette fois, on a un accord ». Qu'est-ce qui a changé ? Peut-être le climat en Grande-Bretagne, vous êtes d'accord avec ça ?
L'ensemble, le climat, et puis malgré tout, le calendrier. C'est-à-dire qu'on se rapproche d'une date butoir qui était censée être une date butoir définitive. On a vu un certain nombre de changements politiques. Il y a tout de même eu le fait que là, il y a eu un patinage dont on ne savait pas ce qui se passait sous Thérèse jamais, et que Boris Johnson, c'est certainement un personnage plus polarisant, mais c'est aussi quelqu'un qui a eu une espèce de vraie épaisseur politique, et par conséquent, même si les gens n'ont plus autant de sympathie pour lui qu'ils en avaient il y a 4 ou 5 ans, ils se disent, bon, bah, il faut qu'on fasse un pas supplémentaire. Donc là, un mélange de lassitude et de se dire, on peut peut-être se raccrocher à celui-ci. Si évidemment il échoue, en ce moment, on ne sait pas ce que ça devient.
N'avons-nous pas assisté aujourd'hui à la réunification de l'Irlande ?
Ah oui, alors en effet, réunification, je ne dirais pas jusque-là, mais c'est un, comme je dis, c'est un problème, c'est une question d'actualité. Et de plus en plus, on essaye de réfléchir, on y réfléchit, parce que c'est vrai que ça simplifierait beaucoup les choses, mais de là à y parvenir, il y a quand même encore un long chemin.
Que dit l'opinion sur ce sujet-là?
Alors, l'opinion est très divisée, puisque l'Irlande du Nord, elle est scindée aussi en deux camps, à tel point qu'on a dit qu'à Londres, on assistait à l'ulstérisation de la politique britannique. Ouais. Et il y a deux camps, il y a les nationalistes qui sont plus ou moins prêts à se rapprocher de la République d'Irlande pour former un seul État, et puis il y a les unionistes, comme ce fameux parti unioniste démocrate, qui n'en veulent absolument pas entendre parler et qui s'arc-boutent sur leur vision de l'unité, de l'union du royaume. C'est vraiment quelque chose auquel ils sont profondément attachés. Et on voit le comportement de Arlene Foster, donc, qui est la présidente de ce petit parti unioniste démocrate, qui tient entre ses mains l'avenir du deal et puis du Royaume-Uni.
Et elle a dit, pour moi, c'est non.
Alors, elle a dit, c'est non. Alors, juste un petit mot sur elle. Elle a été victime de... Personnellement, son père a été victime d'un attentat de l'IRA. Son père s'est effondré avec un membre de l'IRA lui a tiré une balle dans la tête. Et puis elle-même, elle a été victime d'un, enfin presque pas victime, elle a réchappé à un attentat contre un chauffeur de bus quand elle avait la première fois 8 ans, la première fois 16 ans.
Ça veut dire
elle
n'a
pas
sujet,
surmonté ces traumatismes. Et pour elle, le moindre rapprochement avec la République, c'est absolument exclu.
Pour finir, seront-ils dans le marché commun européen sans faire partie de l'Europe ?
Non, ils ne seront pas dans le marché commun. Mais ils veulent en être le plus proche possible. Donc c'est bien le beurre et l'argent du beurre, ça c'est vrai, mais plutôt aux conditions de l'Union européenne. Donc on a déjà des
avec
États
des
comme
contrôles.
Ça. Avec des contrôles, avec vraisemblablement quelque chose à payer pour avoir accès au marché. Par exemple, la Norvège paie, pour avoir accès au marché unique, 760 millions d'euros chaque année aux caisses de l'Union européenne. Et en contrepartie, elle peut vendre ses produits à condition de respecter toutes les règles. Voilà. Donc leur idée, c'est de dire, nous voulons avoir des accords commerciaux avec d'autres pays. Je crois qu'ils n'auront pas de meilleurs accords que ceux négociés au sein de l'Union européenne. Mais après tout, c'est la liberté et c'est un peu le mirage souverainiste.
Les Anglais ont-ils une date limite pour payer les milliards qu'ils doivent à l'Europe ?
Ça, c'est technique. Ça ne se paie pas d'un coup, n'est-ce pas ? C'est la participation à des programmes. Et tout le monde est d'accord pour qu'ils continuent à participer à des programmes. Ouais. Et si, par exemple, on a intérêt à avoir nos universités en réseau, nos laboratoires de recherche, ils paieront.
Ce n'est pas un chèque de 40 milliards
qu'il
va falloir verser.
Non, absolument pas. Et c'est étalé sur pratiquement plus de 10 ans. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que c'est acceptable aussi pour le Royaume-Uni.
Pour quelle raison la Chambre des communes pourrait-elle refuser le deal ?
Ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est que c'est une question d'arithmétique. Et puis, parce que tout le monde a déjà les yeux rivés sur des élections probables à un moment ou à un autre. Et donc, qu'est-ce que mes électeurs vont me reprocher ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mon parti me garde dans le siège où je me trouve ? C'est deux choses éventuellement contradictoires, mais c'est ça qui motive pas mal de monde. De toute façon, c'est une majorité difficile. Je ne pense pas qu'on puisse totalement enlever de l'esprit aux députés britanniques la notion, le cynisme de Boris Johnson. Si c'était vraiment quelqu'un qui disait « je suis sincère, il faut vraiment qu'on fasse un deal pour le bien du pays », ça aurait peut-être marché il y a 3 ans, mais ils se rendent eux-mêmes compte qu'il y a un calcul politique de Boris Johnson et donc ils sont moins enclins à lui apporter un soutien sincère.
Boris Johnson joue-t-il sa tête samedi ?
Oui, il joue sa tête samedi, mais il va tout faire pour la garder.
Parce que et puis il a plusieurs têtes.
Il a raison.
C'est vrai qu'il a plusieurs têtes. Il va tout faire pour la garder. Donc il pense. Bon, il a quand même pas bien calculé jusqu'à maintenant, parce que je pense que depuis jamais il croyait que les juges de la Cour suprême allaient supprimer la prorogation du Parlement. Il pensait pas que les 21 députés allaient voter contre lui. C'était le cas. Donc il a perdu chaque fois qu'il a essayé de faire passer quelque chose. Ça n'a pas marché. Donc là, bon, il joue très gros samedi. Il va probablement... Si le deal passe, il y aura une élection. Il sera réélu avec un raz-de-marée, ça c'est absolument certain. Si le deal ne passe pas et on sort le 31 octobre avec un no deal, il sera probablement réélu parce que le Brexit aura eu lieu et donc il aura quand même, quelque part, honorer sa promesse. Mais s'il ne respecte pas la loi, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, il y a des questions sans réponse. Il y a un tel dégoût de Jeremy Corbyn, un tel peu d'envie que lui soit Premier ministre. C'est sur ce point-là que Boris Johnson joue. Et il faut dire aussi que les conservateurs ont quand même 10 points d'avance dans les sondages par rapport aux travaillistes. Donc, il est assez confortable dans son idée de réélection.
Tout le monde n'était pas d'accord sur cette...
Sondage très fragile, avec il y a une sous-estimation maintenant du vote... Avant, qu'il y avait une sous-estimation du vote conservateur, maintenant, il y a une sous-estimation du vote travailliste, tellement Corbyn n'est pas populaire. Or, quand on a eu un gouvernement conservateur qui ne s'est pas toujours bien débrouillé pendant 10 ans, la logique, c'est de voter contre.
Enfin, une question sur la reine. Un Brexit le 31 octobre est la priorité, assure la reine. Est-ce un soutien à Boris Johnson?
Oui, elle est utilisée par Boris Johnson. Je pense qu'elle est humiliée par Boris Johnson, mais elle ne peut rien faire parce qu'elle est obligée d'honorer la décision de son Premier ministre et de son Parlement. Et de toute manière, elle a fait un discours il y a 2 jours. S'il y a une élection demain ou en novembre, elle reviendra pour faire un nouveau discours.
C'était pas son discours, c'est pas elle qui l'a écrit?
C'est pas elle qui l'écrit, c'est le Premier ministre, le gouvernement qui l'écrit.
J'ai permis de dire sur le plateau qu'on se demande parfois, nous, Français, à quoi elle sert.
Oui, mais ça a été diversement apprécié.
Ça m'a valu tellement d'insultes.
Et en réponse à la question que vous m'avez pas posée, je pense que oui, il y aura une autre C'est dans l'air pour le Brexit.
Merci à vous tous, à la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h40. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlé pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur 25.